Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 3 et du verset 1 jusqu'au verset 12. Et je voudrais vous parler d'un homme nommé Nicodème. Nous avons ici dans la Bible l'exemple de quelqu'un que bien que religieux au départ, il était néanmoins un de ceux pour qui Christ est venu dans le monde et pour qui Christ est venu sauver par sa grâce en son temps. Quoique dans cette première rencontre, il ignorait réellement la manière qu'un pécheur est attiré à Jésus-Christ. Et je dois dire que c'est le même problème aujourd'hui dans les milieux religieux. Beaucoup parlent de la nécessité de venir à Christ. Ils utilisent une expression comme « il faut accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel ». Mais ils ignorent la signification d'un sujet très important dans la Bible, qu'il s'agit de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, aucun pécheur ne pourrait venir à Christ ni chercher Dieu selon la vérité. Il faut naître de nouveau. Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous allons contempler ensemble ce sujet important à travers ces versets que nous avons ici, qui nous donnent l'exemple d'un homme nommé Nicodème. Alors, je lis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. » Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors vraiment, c'est un passage qu'il nous faut prendre le temps de traverser petit à petit. Donc aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les premiers versets et puis la prochaine fois continuer à approfondir ce sujet de la nouvelle naissance. Mais ici, nous avons le discours du Seigneur Jésus avec un homme qui s'appelle Nicodème. Et comme nous constatons, c'est écrit ici dans le verset 1, un chef des Juifs, donc un pharisien. Et il y avait la plupart des pharisiens, des chefs, des sacrificateurs, comme nous avons déjà vu dans le premier chapitre, qui ont renoncé à Jésus-Christ comme le Messie. Ils n'ont pas trouvé en lui, selon leur imagination aveuglée, que c'était lui dont l'Ancien Testament parlait. L'apôtre Jean l'a bien précisé dans Jean chapitre 1 et le verset 11 où c'est écrit « Elle », c'est-à-dire la parole de Dieu, qui était le Seigneur Jésus, Dieu dans la chair, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Parmi tous ceux qui étaient en Israël, c'était ces chefs des Juifs qui avaient accès aux Écritures, qui étaient préservés, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et ils avaient l'habitude de faire la lecture de ces Écritures chaque sabbat dans leur synagogue. Mais ils lisaient les Écritures aveuglément, comme beaucoup le font aujourd'hui d'ailleurs. Ils lisent la Bible, mais ils ne voient pas le Christ de la Bible. Ils saisissent bien la parole comme étant inspirée de Dieu, pourtant ils ignorent qui est le Dieu de la Bible. Et cela parce que ceux qui lisent la Bible lisent ses Écritures aveuglement. Donc, ils sont dans la même situation que Nicodème. Ils ont besoin d'être nés de nouveau. Ce mot signifie naître d'en haut, né de Dieu. Et c'est précisément ce que Jean dit déjà dans le premier chapitre que nous avons étudié. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, malgré l'incrédulité de la génération de ces hommes religieux, à l'époque où Christ vivait sur cette terre, néanmoins, il y en avait qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Mais Jean 1 et le verset 12 nous donnent la raison. C'est parce qu'elle a donné le pouvoir. Elle signifie la parole. Il faut que Dieu, dans la chair, Christ, la parole de Dieu, se révèle dans le pécheur à travers sa parole, et c'est elle qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Ouais, ça c'est un sujet dont l'Esprit de Dieu dirige. L'apôtre Jean a développé à travers cet évangile la nouvelle naissance, déjà dans le premier chapitre, et maintenant dans le chapitre 3, ça se développe davantage, mais lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà où beaucoup aujourd'hui confondent la nouvelle naissance. Les prédicateurs prêchent la nouvelle naissance comme s'il s'agit d'une décision personnelle, individuelle, d'un pécheur à l'égard de Christ. Et donc, en prenant sa décision, maintenant, ce pécheur-là est accepté par Christ et reçu comme un enfant de Dieu. Mais c'est exactement le contraire. L'homme est mort dans ses péchés. Sans l'Esprit de Dieu agissant en lui, le pécheur ne pouvait jamais connaître Christ, ni venir à Christ. Et donc, dans le cas de Nicodème, s'il est venu au Seigneur Jésus, comme c'est écrit ici, certainement c'est le Seigneur lui-même qui était en train de l'attirer. Et cela est démontré davantage dans 1 Corinthiens chapitre 2, où ça parle, là, Paul écrit au sujet de l'importance de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un pécheur. Et en tant que prédicateur, je suis conscient de la nécessité de l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs des auditeurs, parce que ce n'est pas à travers mes paroles que Dieu convertit les pécheurs, mais c'est à travers sa parole, écrite, inspirée, prêchée aux hommes et aux femmes, et c'est l'Esprit maintenant qui prend cette parole pour la semer dans les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Il faut savoir que ce n'est pas comme les prédicateurs font comprendre ou savoir aux gens en disant que l'Esprit essaye de révéler Christ en chacun, mais là c'est à l'homme maintenant de prendre sa décision. Non, le salut n'est pas une coopération entre l'homme et Dieu, où Dieu attend maintenant, comme dans une négociation, un contrat, Dieu attend maintenant à ce que le pécheur signe sur la ligne pour accepter l'offre. Voilà encore comment beaucoup imaginent le salut, que c'est Dieu qui offre ce salut, mais c'est au pécheur maintenant de l'accepter. Non, le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin. Et tel est le cas avec Nicodème. Laissé à lui-même, il ne serait jamais venu à Christ. Mais le fait qu'il est venu, même dans l'ignorance, parce qu'il faut dire que c'est comme ça que nous avons tous débuté, dans l'ignorance. Mais si nous sommes finalement venus à Christ dans la vérité, c'est parce que c'est Christ lui-même par son esprit qui s'est révélé en nous. Nous voyons encore cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, où Paul, dans le verset 6, parle de cela comme une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Quand il parle de cela, il parle des hommes comme Nicodème ici, qui était un chef des Juifs, un homme religieux, un responsable, qui avait l'habitude de se tenir devant les foules et leur enseigner les Écritures. Mais voilà dans l'Évangile une sagesse parmi ceux-là qu'ils ignorent. Et nous savons que si Christ avait laissé Nicodème dans cette ignorance, Nicodème ne saurait jamais comprendre les mystères de l'Évangile, surtout, on voit ça dans ses réponses. Lorsque Christ lui disait qu'il faut naître de nouveau, et nous avons lu sa réponse, dans le verset 9 de Jean 3, comment cela peut-il se faire? Et Christ répond, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il y a beaucoup qui ignorent cette doctrine de la manière que Christ attire les pécheurs à lui-même. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux que le Père lui a donné avant même les temps éternels et pour qui il est venu dans ce monde chercher et sauver par sa mort à la croix. Alors, c'est pourquoi Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Et c'est écrit, mystérieuse et cachée. C'est-à-dire que l'homme, par sa propre connaissance, ne pourrait jamais saisir le sens de ces écritures. C'est pourquoi beaucoup lisent ce que nous sommes en train de lire, mais ils tirent d'autres conclusions. Ils ne voient pas Christ dans toute sa gloire. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, donc depuis l'éternité, avait destinée pour notre gloire. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes en train d'appréhender et comprendre que toutes ces écritures sont au sujet de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, voilà ce qui est à la gloire de Dieu, mais c'est pour notre gloire aussi le fait qu'il daigne ouvrir les yeux des pécheurs tels que nous sommes. Mais encore, il dit dans le verset 8, « Sagesse, aucun des chefs de ce siècle n'a connu. » Pourtant, ils avaient les mêmes écritures dans l'Ancien Testament que nous lisons. Mais ils lisaient sans comprendre que toutes ces écritures étaient prophétiques et typiques de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, celui-même qui se tenait devant eux. Mais ils ne constataient pas que c'était effectivement Dieu dans la chair. Encore, c'est parce qu'il faut que Dieu, par son esprit, donne cette révélation. C'est pourquoi je crois et je prêche ce que je prêche aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout autre, mais c'est parce que il a plu à Dieu de révéler Christ en moi. Mais ici, c'est écrit « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. » Pourtant, voilà un homme qui s'appelle Nicodème, qui est venu à Christ sans peut-être constater au départ que c'était Christ lui-même qui l'a attiré. Bien sûr, il venait selon sa détermination, il venait selon la volonté. Il fallait un certain courage de venir et s'adresser à Christ. Pour cela, il y a certains qui disent que c'est pourquoi il est venu la nuit, parce qu'il avait honte. Mais c'était un homme d'affaires, c'était un homme avec beaucoup d'occupations. Et pendant la journée, Christ aussi avait une journée remplie en enseignant dans le temple, et donc on peut dire que c'était peut-être par respect aussi qu'il a rencontré le Seigneur Jésus la nuit, lorsque toutes les occupations, les préoccupations de la journée étaient déjà passées. Mais ce que je peux vous dire, selon les Écritures, il est venu la nuit parce que c'était exactement à ce moment-là que le Seigneur Jésus l'a tiré. Et je peux dire, c'est pour cette raison que nous sommes venus, si nous sommes à Christ, et que nous sommes venus exactement au moment prévu par Dieu lui-même, pas une seconde plus tard ou en avance, exactement au moment où le Seigneur lui-même l'a voulu. C'est ce que l'apôtre Paul a signalé dans son témoignage, dans Galates chapitre 1. Quand est-ce qu'il est venu à Christ? Dans Galates 1, le verset 15, lui-même il a témoigné, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il plut à celui, ce n'est pas selon notre propre plaisir, mais selon le bon plaisir de Dieu que nous venons. Alors c'est ainsi avec Nicodème. Mais il était un parmi toute une foule de chefs de ce siècle-là qui ne l'ont point connu. Alors, s'il est venu, c'est parce que Dieu lui-même l'avait déjà choisi. Et c'est Dieu qui l'a attiré. Parce que 1 Corinthiens 2:8 nous dit, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ils l'ont crucifié par rébellion et en agissant contre lui et sa personne. Et je dois dire, telle est notre nature. Nous avons tous la même nature. Alors si nous sommes venus à Christ en réalité, en vérité, selon la manière décrite ici dans les Écritures, nous devons attribuer toute la gloire et la grâce à lui. C'est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc vous voyez déjà, nous sommes aveugles de nature, sourds de nature, et ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il faut la révélation de Christ, mais ce sont des choses que Dieu a préparées. C'est écrit pour ceux qui l'aiment. Nous savons que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a des gens qui aiment leur idée de Dieu. Ils se font une idée de lui et c'est ce Dieu-là qu'ils aiment. Mais ça, c'est l'idolâtrie. Le mot idolâtre a dans sa racine idée. Donc, les gens se font une idée de Dieu et ils suivent un tel Dieu, adore un tel Dieu, quoique étant établi de leur imagination déjà dépravée et pas conformant aux Écritures, ils sont toujours dans l'aveuglement jusqu'au moment où il plaît à Dieu de révéler Christ en eux. Mais ici, ceux qui l'aiment, c'est-à-dire une fois révélé et de comprendre que ce Christ est celui dont les Écritures parlent et qu'il est véritablement le Sauveur, qu'il n'y a pas de salut en dehors de lui et que c'est par son sang versé que nos péchés sont pardonnés, c'est par son obéissance que nous avons maintenant la justice de Dieu imputée à notre compte à cause de lui. Donc, nous l'aimons. Et pourquoi pas? Parce que c'est lui qui a tout accompli pour notre salut. Il y a beaucoup qui ignorent ça. Ils ne veulent pas que le salut appartienne à Christ seul. Les hommes, dans leur orgueil, exigent et demandent à ce qu'une partie de cette gloire leur revienne. Mais ça, c'est impossible. Toute la gloire est à Dieu. Mais comment est-ce que nous connaissons ce Christ-là, le verset 10 d'1 Corinthiens 2 nous le dit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne, écoutez bien, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, voilà pourquoi ce sujet est important. Cet homme, Nicodème, en revenant dans notre texte, dans Jean chapitre 3, bien sûr, était un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, mais le verset 2 dit qu'il vint, lui, auprès de Jésus. Pourquoi lui? Je sais que la Bible nous dit, surtout dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 26 à 29, que pas beaucoup de puissants ou bien de nobles sont appelés. Cela aussi est selon le dessein de Dieu. Dieu décide ce qu'il doit sauver et il n'a pas ordonné ce salut pour beaucoup de puissants ou de nobles, selon ce que nous lisons ici, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas ignoré ou dépassé tous ceux qui sont puissants ou nobles. Autrement, Abraham lui-même ne serait jamais appelé son fils, ni l'apôtre Paul, qui était Saul, lui-même qui persécutait l'Église. Lui aussi, il était parmi les chefs de son jour. Pourtant, il était un de ceux que Dieu avait destinés déjà au salut. Heureusement, c'est comme ça. Je pense que parfois, nous imaginons, quand nous voyons certains grands prédicateurs de renommée, et on imagine que, voilà, ceux-là, ils prêchent un faux évangile, donc impossible que ceux-là soient des élus ou bien des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas discerner cela. Tel est le cas de Nicodème aussi. Quoique chef des Juifs, néanmoins un de ceux pour qui Christ est venu dans le monde, et nous voyons Christ en train de l'attirer déjà. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 26, nous lisons cela. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Heureusement, ça ne dit pas là, « Il n'y a point de sages selon la chair, il n'y a point de puissant. Autrement, il n'y aurait pas d'espoir pour un homme comme Nicodème, ou bien peut-être pour certains d'entre nous qui étaient dans des positions élevées, même dans la religion, tel était mon cas. Et puis, maintenant, le Seigneur Jésus nous a humiliés et nous a baissés pour que Christ soit tout. Ouais, et nous avons abandonné ce chemin sur lequel nous étions. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi le verset 27 nous dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Alors, voilà ce que dit la parole de Dieu au sujet de ceux qui sont sauvés par Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de leur position dans la société ou même dans la religion. Tel était le cas de Nicodème. Il est venu et il s'adressait à Christ comme s'il avait une certaine connaissance de lui, parce qu'il dit de bonnes paroles lorsqu'il est venu dans Jean 3, le verset 2. Il appelle Rabbi. Ça, c'est un terme de respect qu'ils avaient entre eux, qui signifie maître. Et il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourtant, Christ n'a pas suivi le chemin de Nicodème et d'autres dans leurs institutions religieuses pour avoir ces titres de rabbi et docteur. Lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Quand il dit docteur, un enseignant, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais il y a une différence entre dire que quelqu'un est un prophète et qui parle de la part de Dieu et dit qu'il est Dieu dans la chair. Et c'est effectivement à ce point où, pour être converti, il devait voir que Christ n'était pas simplement un homme comme lui qui tenait une position d'honneur comme Nicodème, non. Christ n'a pas de rival. Il fallait que Nicodème soit baissé et reconnaître que celui à qui il s'adresse ici n'est autre que Dieu dans la chair. Donc, il disait certaines bonnes choses au sujet de Christ. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pourtant, il y avait beaucoup d'autres à l'époque qui prétendaient faire des miracles. Alors, il faut que Nicodème maintenant soit amené, et cela par l'Esprit de Dieu, de comprendre que ce n'est pas la connaissance de ces choses qui font le salut d'un pécheur. Quand on lit cela dans le verset 2, il faut dire que ce que Nicodème a déclaré, il n'a pas dit plus que le diable connaît. Le diable connaît que Christ est venu de Dieu. Le diable connaît que Christ a fait des miracles. Et c'est pourquoi Christ n'a pas laissé Nicodème s'arrêter là sur ses dires ou ses déclarations dans le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la prochaine fois, nous allons approfondir ce que c'est la nouvelle naissance dans sa nature et dans ses résultats. Comment reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. Mais nous sommes en train de voir cet exemple de Nicodème ici, un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, parce que c'était Christ lui-même qui était en train de l'attirer. Alors, je sais que peut-être vous vous posez la question, mais comment est-ce que nous savons que Nicodème était un de ceux pour qui le Seigneur Jésus est venu dans le monde? C'est parce que nous avons dans les Écritures qui suivent, surtout dans l'Évangile selon Jean, d'autres versets qui nous montrent que plus tard, Nicodème s'est identifié avec Christ d'une manière que les autres pharisiens ne faisaient pas. Par exemple, dans Jean chapitre 7 et le verset 50, nous voyons ici ce qui est décrit. Jean 7, 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, donc nous savons que c'est le même dans Jean chapitre 3, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi Galiléen ? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Alors, il s'agit ici des protestations entre les pharisiens concernant le Seigneur Jésus. Et je dois dire que cette discussion était vive. Nous voyons dans le verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Quand c'est écrit le prophète, il s'agit de ce que Moïse avait déclaré que Dieu élèverait parmi vous un prophète comme moi. Cela dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Il a dit, écoutez-le. Donc, les gens s'attendaient à ce prophète qui devait venir. Et voilà ceux de la foule qui disaient, certainement c'est lui. Mais d'autres disaient, verset 41, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Nous savons que les Écritures disaient qu'il devait venir de la ligne de Juda, qui était au sud, mais de la Galilée. Mais c'est parce que, quoique né à Bethléem, Christ a grandi dans cette région, ce département au nord du pays. Alors les gens s'étonnaient, surtout qu'il venait de Nazareth. Ils s'étonnaient que quelqu'un de bien pouvait sortir de Nazareth. Alors voilà leur discussion. Verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Et je dois dire que lorsque Christ est prêché, tel qu'il est révélé dans les Écritures, il y aura une division. Surtout, Dieu, par sa grâce, va troubler et bouleverser ce qu'il a donné à son Fils. Il ne peut pas laisser cela dans leur ignorance ou leur aveuglement. D'autres seront divisés en se rebellant contre ce Christ-là, mais d'autres, à travers la division, Dieu, dans sa grâce, les amènera aux pieds de Christ et les humiliera devant lui. Alors, quelques-uns, dans le verset 44, d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Là encore, Dieu avait prévu le moment et le temps où son fils devait mourir et aucun ne pouvait lui arracher la vie. Personne, même à la fin, n'a arraché la vie à Christ. Il a donné sa vie de lui-même et il a repris. Tel était le commandement qu'il a reçu de son père. Mais les gens s'opposaient. Verset 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ouais, il y a beaucoup qui imaginent que Christ est entre leurs mains de faire de lui ce qu'ils veulent, mais c'est le contraire. Christ remerciait son Père dans Jean 17, le verset 2, du fait que le Père lui a donné autorité sur toute chair. Donc, ce sont des pécheurs qui sont entre les mains de Christ, et c'est écrit de donner la vie à ceux que le Père lui a donné. Mais ceux-ci, étant envoyés pour saisir Christ, sont revenus sans lui. Et verset 46 lui nous dit, les huissiers répondirent, jamais on n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Voilà la manière que les hommes religieux interprétaient ceux qui suivaient le Seigneur Jésus, qu'ils étaient séduits par lui. Mais c'est le contraire. Nous sommes attirés à lui. Ce n'est pas une séduction, mais c'est une révélation de connaître Christ dans tout son pouvoir et toute sa gloire telle qu'il est révélé ici dans les Écritures. Et c'est écrit 48, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Telle était l'unité de ces chefs, de ces pharisiens contre Christ, que le défi était de trouver même un parmi eux qui était les responsables, qui croyaient en lui. Pour eux, c'était une raison de dire que c'est Christ qui est le faux, et ceux-là avaient la vérité. C'est comme ça que beaucoup raisonnent aujourd'hui. Quand on les confronte avec la vérité de qui Christ est, pourquoi il est venu, pour qui il est venu, et ce qu'il a accompli par sa mort, que c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux que le Père lui a donné. Il y a des grands, des prédicateurs qui vont réagir pour dire non, mais vous ne savez pas que depuis des années, je prêche Qui êtes-vous maintenant de venir vers moi, de questionner ce que je prêche, ou bien le Christ que je prêche? Voilà l'endurcissement de leur cœur. Mais verset 49 dit, « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Voilà leur interprétation. Et ça continue aujourd'hui. Il y en a qui pensent que c'est la vérité réside avec le pasteur, ou avec le prêtre, avec le responsable, et non pas avec l'auditoire. Et si quelqu'un maintenant pose des questions, trop de questions au sujet de la prédication d'un de ceux-là, alors voilà la réponse. Ah, mais vous là, vous êtes des ignorants. Nous connaissons les Écritures, vous êtes des maudits. Même si ça ne sort pas de leur bouche de cette manière, dans leur cœur, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et c'est là maintenant que le Seigneur, par son esprit, a dirigé Nicodème, parce qu'ils ont déjà lancé le défi. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Alors voilà Nicodème qui se lève, et de la manière dont le Seigneur l'a dirigé, l'Esprit l'a dirigé, il, en effet, était en train de dire, oui, voici, je suis un de ceux-là. Parce qu'il dit, la loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? C'est-à-dire, nous avons besoin de l'entendre. Et ça, c'est la vérité. Surtout au sujet de l'Évangile, nous avons besoin que l'Esprit nous donne des oreilles pour entendre. Maintenant, un autre verset, puis nous devons nous arrêter, mais dans Jean chapitre 19 et le verset 39, nous avons ici mention encore de Nicodème. Et si vous voulez savoir s'il était effectivement attiré à Christ par la grâce de Dieu, quoiqu'un homme religieux au départ. Voilà le témoignage des Écritures dans Jean 19 et le verset 39. C'est écrit ici, Nicodème, qui auparavant était appelé de nuit vers Jésus. Intéressant que c'est mentionné ces deux fois, en plus ce que nous lisons dans Jean 3, pour que nous sachions que c'est effectivement celui-là. De la manière que l'Esprit dirige Jean d'écrire de lui, c'est de nous montrer que c'est lui-là qui était l'objet de la grâce de Dieu, celui qui est venu la nuit, mais c'est écrit « vint aussi » apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Mais c'est pour nous montrer que jusqu'à la fin, Nicodème s'est identifié avec le Seigneur Jésus, même dans sa mort. À un moment où Christ vient d'être crucifié, et les soldats étaient tout autour, ainsi que d'autres responsables, chefs des Juifs, observant qui allait s'approcher. Mais Nicodème a eu le courage de venir, comme d'autres, et s'occuper du corps de Christ. C'est une manière de nous dire qu'il était vraiment attaché à lui dans sa vie, mais aussi dans sa mort. Et ça, c'est le témoignage de la foi de ceux que Dieu sauve. Il s'identifie avec le Seigneur Jésus, non seulement dans sa personne, mais dans sa mort. Et nous pouvons alors prendre d'encouragement de cela, sachant que c'est de cette manière que Dieu sauve qui que ce soit. C'est en l'abaissant devant le Seigneur Jésus. Quoique dans l'ignorance, au départ, il faut dire que j'ai lu la Bible pendant des années, j'ai étudié les Écritures, même dans les langues originales, hébreu et grec, sans comprendre que toutes ces Écritures s'agissaient du Christ. Mais comme pour Nicodème, comme pour Saul, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, c'est ainsi qu'il était appelé par la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur daigne bénir ce que nous venons d'entendre aujourd'hui à sa gloire.